Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous écoutez. Ici Sens, l'émission qui cherche à introduire aux sciences sociales et essaye de donner un sens à l'actualité ou à des préoccupations plus générales sur le monde social. C'est aujourd'hui le sujet préféré des éditorialistes, des journaux et de la télévision que nous allons traiter, le débat le plus présent sur la scène publique en termes de quantité. Je parle bien sûr de l'immigration. Nous en sommes à un point, à une présence de cette notion dans le débat public, que la gauche se divise même sur le sujet, à savoir s'il faut vraiment parler d'immigration pour essayer de toucher ce qu'elle pense être un sujet porteur pour les élections face aux classes populaires, mais aussi pour savoir comment régler un problème qui serait lié peut-être avec celui de la mondialisation. C'est le point de vue de Frédéric Lordon ou de la France Insoumise, qui pense que la dérégulation des échanges a mené à une dérégulation des flux de population qui seraient attirés par la richesse des pays européens. Il y a alors deux attitudes qu'il faudrait avoir face au sujet de l'immigration, soit une attitude de rejet, de fermeté pour essayer de contrer la mondialisation, ou soit une sorte de compassion qu'on pourrait qualifier très clairement de misérabilisme, puisque ces gens sont souvent pauvres, sont souvent les nouveaux damnés de la terre, et connaissent des conditions de vie dignes d'un autre siècle. Mais plus globalement, le débat public est complètement aveugle de la réalité même de l'immigration, soit parce qu'il réduit un problème aux populations et à leur soi-disant culture qui serait inassimilable pour le territoire français, soit car on les voit comme des pantins victimes de la mondialisation, qui seraient donc soit des agents du grand capital pour essayer de désarmer les travailleurs d'un pays, soit parce qu'ils sont des pauvres hères qui sont baladés selon les flux de richesses. Les sciences sociales nous aident alors à faire un peu le tri et à comprendre l'immigration comme constituante des sociétés et non comme un phénomène qui serait là. Pour citer François Héran, le professeur au Collège de France à la chaire des migrations et sociétés, c'est un sociologue démographe, il ne faut pas faire attention aux déferlantes lorsqu'il y a des problèmes de lame de fond permanente. Et ces dernières lames de fond sont constitutives donc des sociétés qui reçoivent, mais aussi des sociétés qui donnent, selon les migrations. Ces sociétés, en absorbant les immigrés, en résistant à l'immigration ou en utilisant les immigrés, se forment par eux-mêmes. Ce n'est pas une sorte de réaction, c'est un phénomène constitutif, mais aussi réflexif, puisque nous sommes conscients à chaque fois, en tout cas depuis la fin du 19e siècle, aux vagues de population qui arrivent au sein de notre pays. Et si je partage le point de vue de certains commentateurs, à savoir qu'il faut essayer de comprendre l'importance de ces populations en tant que classe sociale qui sont situées économiquement, on ne peut nier qu'il y a quelque chose de différent autour de ce débat, une spécificité qui nécessite d'être analysée. Que ce soit du côté des réactions de la société d'accueil que du côté des immigrés. Je vais tenter alors d'essayer de débunker quelques idées reçues, mais des termes mal posés dans le débat public. Puis nous pouvons voir comment les sciences sociales, nous pouvons tracer quelques directions dans lesquelles les sciences sociales touchent l'immigration, sur lesquelles nous pourrons revenir dans d'autres émissions. Mais ici, je tiens surtout à faire une sorte de rappel, essayer de poser ce qui peut être simple par rapport à l'immigration.
On va héberger toute la misère du monde, que la France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique. Nous sommes signataires de la Convention de Genève qui prévoit de donner accueil à tous ceux dont les libertés d'expression ou dont les opinions sont réprimées sur place, mais pas plus.
Cette phrase malheureuse du Premier ministre Michel Rocard en 91 montrait que lui aussi n'avait pas les bases, puisque se sentait obligé de commenter la question de l'immigration durant une période qui se voyait caractérisée par la première montée du FN. Elle a ensuite été répétée abondamment, tordue, sortie de son contexte, mais a aussi servi à illustrer un nouveau rapport, même d'un dirigeant de gauche, par rapport à ces questions qui étaient obligées de se mettre au diapason d'une force politique montante et qui semblait particulièrement liée à la question de l'immigration. Selon toujours François Errant, et cette phrase est complètement ignorante de la réalité même de l'immigration, puisque cela signifierait deux choses. Un, que toute la misère du monde chercherait à quitter les endroits créateurs de pauvreté, c'est-à-dire surtout l'Afrique dans l'imaginaire collectif maintenant, mais aussi que nous avons une vague immense d'immigrés qui viendraient en permanence sur nos sociétés occidentales, c'est-à-dire surtout européennes et européennes de l'Ouest et américaines. Or, il explique que peu de personnes migrent. Globalement, nous sommes autour de 4% de la population mondiale en 2010 qui migreraient. Et s'ils migrent en Europe, ce ne sont pas les plus pauvres en pauvreté absolue. C'est-à-dire qu'ils sont évidemment pauvres lorsqu'ils arrivent en Europe, après s'être appauvris pour arriver en Europe, ou tout simplement parce qu'ils ont connu un appauvrissement dans leur pays d'origine qui les a poussés à immigrer. Mais ce ne sont pas les plus pauvres qui immigrent. De plus, il n'y a pas cette vague vers les pays occidentaux. Non, les principales vagues de migration, selon François Errant, sont des migrations régionales et en Afrique même, entre différents pays d'Afrique. C'est alors une sorte d'européanocentrisme et vraiment se caler sur des discours xénophobes de réaction que d'essayer de penser l'arrivée des populations immigrées dans les pays européens comme une invasion, comme un phénomène massif. C'était déjà beaucoup plus le cas dans les années 30, lorsqu'il y avait des migrations internes aux sociétés européennes. En parlant de migration interne, le débat public tente à oublier que la France est un pays qui est constitué par l'immigration. C'est même tout le propos du livre « Le creuset français » de Gérard Noiriel. Si on devait prendre les gens qui sont immigrés, c'est-à-dire qui ne sont pas nés en France, les gens de la deuxième génération dont les parents ne sont pas nés en France et les gens de troisième génération dont les grands-parents ne sont pas nés en France, nous sommes plus à la moitié de la population française qui a un lien avec une immigration durant ce siècle. Et voire beaucoup plus de gens si nous prenons sur encore plus longtemps. On peut même dire que la France a inauguré, ou en tout cas fait partie de ce que Gérard Noiriel appelle un système moderne et une utilisation moderne de l'immigration. Sachant qu'aux États-Unis, l'immigration était avant tout un moyen de peuplement. Certes, un grand nombre d'immigrés a été utilisé comme main-d'œuvre peu chère dans l'industrie, mais la migration est avant tout vue comme un moyen de combler la faiblesse démographique, le peu de WASP qu'il y avait, mais aussi d'offrir une sorte de pays de la deuxième chance. En France, nous avons utilisé les immigrés, mais depuis les années 1870, comme une main-d'œuvre peu chère au moment de la transformation de la société rurale française. Et cette série d'immigration européenne principalement, a mené son lot de clichés qui sont parfois encore présents. C'était les Belges en 1870 qui sont allés dans le nord de la France pour commencer à développer les usines à charbon. Les Italiens entre 1890 jusqu'à 1920, puisque certains Italiens sont des réfugiés politiques, puisque la France était une des rares républiques à la fin du 19e siècle, mais elle était aussi encore une des rares démocraties au moment de la montée du fascisme et du nationalisme. Mais ces immigrés italiens, ces transalpins, sont particulièrement bien connus, puisqu'ils venaient souvent faire des travaux agricoles pour un été. On considère même qu'un tiers des travailleurs italiens, selon Gérard Noiriel, seraient repartis dans leur pays après avoir gagné un certain nombre d'argent, aussi bien en tant que travailleurs agricoles dans le sud, mais aussi en tant qu'ouvrier dans le nord. Nous avons eu une image extrêmement négative des Italiens jusqu'à plutôt récemment, c'est-à-dire plutôt les années 50-60, puisque ils étaient vus comme des sortes de latins arriérés, qui des adorateurs béats du catholicisme, qui ne seraient pas à la hauteur d'une population plus nordique en France, qui serait plus sage, moins grégaire et avec un meilleur esprit critique et plus sensible parfois au protestantisme. Comme quoi, nous avons déjà une pensée raciste sur peut-être nos voisins nos plus proches et même nos parents les plus proches en termes de population, à savoir eux-mêmes des catholiques latins. Et nous avions des mêmes discours sur l'inassimilation. En parlant d'inassimilation, on peut penser aussi aux Polonais, qui sont arrivés en masse en France aussi entre 1910 et 1930. Nous en avons viré quelques-uns au moment de 1930, mais ils nous ont servi à développer eux aussi notre industrie, aussi bien dans le nord qu'autour de Paris. Les Polonais puaient, les Polonais pratiquaient une sorte de catholicisme arriéré, ils ne vivaient qu'en groupe. Nous avions des descriptions qui n'ont rien, absolument rien à envier à celles que l'on fait aujourd'hui des Maghrébins. Maghrébins, oui, pensons à eux, parce que la France étant un grand pays colonial, elle faisait parfois immigrer de force ou donner envie à certains de des habitants des colonies à aller directement en France où se produisait la richesse. Et lorsque la France se retire de ses colonies puis durant la phase de décolonisation, elle reste toujours un modèle, ne serait-ce que parce qu'il y a une proximité langagière. Nous connaissons peut-être mieux cette immigration, puisqu'elle dure depuis 1960 environ, et a connu différentes vagues, parce que la première vague des Algériens, des Harkis ou des Tunisiens ne correspond pas avec la vague marocaine ou d'autres Algériens dans les années 1990. Mais je parle de vagues, mais globalement, les plus grands pics d'immigration se trouvent dans les années 1930, où la France est aussi vue comme un asile politique, et ou en 1890, où elle accepte aussi bien des Arméniens qui sont persécutés, et qui sont particulièrement visibles, puisqu'on les parque dans certaines villes, comme Arnouville-lès-Gonesse en Seine-Saint-Denis, ou à Valence. On fait aussi la même chose avec de nombreux immigrés juifs qu'on va parquer à Garges-lès-Gonesse ou dans certains quartiers juifs dans le sud de la France. Nous pouvons faire une généalogie de toute la xénophobie qui entoure aussi ces Arméniens et ces Juifs. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a une sorte... La France s'est constituée par l'immigration et à chaque fois, il y a des réactions propres à la communauté arrivante et non... Et ce que Gérard Noiriel essaye de prouver dans son livre, c'est que ce qu'il appelle les trois crises xénophobes sont souvent liées à des moments de ralentissement économique, de peur très forte de déclassement. Oui, il y avait la peur de déclassement en 1890, parce que lorsque l'activité économique est au plus bas, ceux qui le ressentent le plus fortement sont les classes moyennes ou les petites classes moyennes qui sont liées au cycle économique, comme les petits commerçants, mais qui ne sont pas prêts, eux, à prendre n'importe quel boulot, comme de nombreux immigrés qui étaient prêts à faire des emplois particulièrement difficiles pour les Français. C'est pour ça qu'on se demande à quel point, selon Gérard Noël, s'il n'y a pas une sorte de non-lieu de mémoire. Est-ce que c'est lié à une honte de la France, ce grand pays des droits de l'homme, pour les traitements, on va dire, instantanés souvent de ces immigrations? Nous avons aussi parqué des immigrés politiques espagnols à la frontière parce que nous ne savions quoi en faire. Est-ce que c'est parce que il y a une assimilation silencieuse comme rêvent de nombreux réactionnaires aujourd'hui? On voit bien que l'assimilation n'a pas été silencieuse. C'est juste que la figure de l'immigré change à chaque fois et que selon les périodes, elle se transforme, elle diffère, elle n'est même pas forcément le même sujet du débat. Mais ce que dit Noiriel et François Héran, c'est que l'assimilation est souvent dite réussie à la troisième génération. Est-ce que ce serait alors propre au modèle républicain français, celui qui s'instaure par l'école? Bien oui, d'une certaine façon, ça s'instaure par l'école, puisque c'est lié aux conditions économiques souvent de ces familles immigrées, selon François Héran. Les conditions économiques, souvent les gains de diplôme ou le gain de ressources, mais sur trois générations, même tout simplement commencer à accumuler un héritage qui n'existe pas plus forcément lorsqu'on immigre directement. font que on peut habiter autre part, on peut alors quitter le quartier, sortir des ghettos urbains. On oublie aussi, à la troisième génération, on ne parle plus forcément la langue maternelle, puisque déjà les parents de deuxième génération ont plus tendance à parler en français. Et on perd aussi des stigmates, ne serait-ce que par le métissage. Ou des tendances, on peut perdre aussi la religion de ses parents, la façon de le faire. Mais ce qui peut mener de temps en temps en plus à une sorte de redécouverte des cultures, souvent des cultures d'origine par les troisième générations. C'est fait dans certains livres de sociologie où on explique à quel point la mémoire familiale compte pour ces troisième générations. On voit alors que c'est avant tout une réalité peut-être économique qui influence la dite assimilation, c'est-à-dire une transformation des conditions matérielles pour ces gens. Mais on ne peut pas nier qu'il y a quelque chose de spécifique, puisque ces prolétaires sont considérés comme différents par la population d'origine. Et c'est exactement ça que je veux montrer. Les sciences sociales permettent de saisir ce qui crée l'immigré. Est-ce que l'immigré crée ? Est-ce que l'immigré existe auparavant ? C'est quelque chose de très complexe. En tout cas, l'étude de l'immigration par les sciences sociales permet de mettre à distance une certaine forme de victimisation. Parce que certes, l'immigré a connu des conditions difficiles, que ce soit pour le voyage, que ce soit au moment de l'installation, que cela soit dans le ghetto urbain, que cela soit face à l'administration, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit dans l'affrontement de la xénophobie. Mais l'immigré est un sujet sociologique au même titre que d'autres, c'est-à-dire qu'il a des ressources sociologiques, il a aussi une mémoire plus diffuse, certes, que d'autres acteurs sociaux qui sont déjà intégrés dans le pays, mais il y a une mémoire propre aux communautés immigrées, il y a une mémoire propre à la famille même immigrée, qui permet de s'adapter selon le pays. On peut commencer à s'intéresser à l'immigration selon des termes entre guillemets bourdieusiens, selon une sociologie plus de la constitution de l'individu et de la domination. Quels sont les habitus, par exemple, qui poussent à l'immigration ? Essayer de comprendre que cela varie selon le pays, que cela varie aussi, donc, comme je le disais, selon la place dans la société, dans le pays. Le fait qu'on ait accès à certaines informations ou que nous sommes dans une forme de profession qui mettent en contact, par exemple, avec cet autre pays. C'est aussi selon la situation de déclassement, l'habitude de la pauvreté qui peut permettre de comprendre pourquoi l'immigré arrivé dans un pays accepte des travaux plus pauvres, mais aussi selon ce qui constitue l'univers visuel de l'immigré, parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à très récemment, et encore, il y a toujours cette influence, mais maintenant par les réseaux sociaux ou par Internet, des entreprises étrangères qui allaient recruter sur le lieu même, dans le pays d'origine, les différentes populations immigrées pour créer une main-d'œuvre. Mais il faut aussi voir les immigrés comme des individus actifs. On peut voir cela avec une autre tradition sociologique, qui serait une sociologie, par exemple, de la réception. Je pense, par exemple, à tout ce que Michel de Certeau appelle le braconnage, c'est-à-dire voir l'acteur social comme un braconnier qui essaye de s'en sortir au milieu d'une chasse, la chasse étant les règles qui fondent une société et les chasseurs étant ceux qui ont créé les règles ou qui s'en sortent mieux dans les règles. L'acteur social est toujours en braconnage en faisant sien ses règles, en savant quand elles s'appliquent, quand elles ne s'appliquent pas, avec quel animal. Il y a une activité de l'acteur social. Et ces stratégies par rapport à l'immigration se font autant par des habitudes prises que par des choses pleinement conscientes. Par exemple, un certain discours donné aux enfants, essayer de valoriser certains enfants plutôt que d'autres, savoir comment on parle dans un bureau administratif, savoir qui il faut voir, savoir comment il faut le voir, essayer de toujours garder ses papiers sur soi, puisque les papiers sont constitutifs de l'identité sociale de l'immigré depuis les années 1970. Stéphane Beau est celui qui a poussé cette tradition assez loin, puisqu'il essaie de voir, et je pense que je reviendrai dessus dans une autre émission, comment des familles immigrées arrivent à se sortir de la victimisation permanente selon les époques et avec quelles difficultés. Il étudie alors une famille immigrée, les Belloumi, et voir comment la socialisation s'est faite différemment pour les sœurs qui ont grandi dans les années 80 que pour les frères qui ont grandi vers la fin des années 90. Il étudie aussi comment les communautés immigrées arrivent à créer leurs propres valeurs et leurs propres habitudes qui finissent par influencer toute la France, et il le fait à travers surtout l'étude du football et ce qu'il appelle le football des cités, et voir en quoi il constitue à la fois certes une identité française, mais aussi comment des gens au sein d'une cité, en apprenant à jouer très bien au foot, font comme l'enfant bourgeois qui apprend ses gammes, c'est-à-dire qui s'habitue à une activité socialisante propre à sa classe. Et les sciences sociales permettent aussi de mieux comprendre ce qui pose le plus de problèmes dans l'immigration, à savoir la réception du pays d'accueil et l'étude des discours xénophobes.
Les propos de Jacques Chirac sur l'immigration sèment donc le trouble et provoquent quelques remous dans la classe politique française. Tout le monde reconnaît que l'immigration pose un problème en France. Beaucoup pensent que des gouvernements successifs n'ont pas su maîtriser la situation. Mais aujourd'hui, c'est d'abord le discours et les mots employés par Jacques Chirac qui engendrent la polémique. Déclaration et réaction rassemblées par François Brabant.
Au départ, une réunion presque sans importance. Le RPR est à Orléans, dîner-débat devant 1500 militants, et soudain, entre la poire et le fromage, Jacques Chirac passe à l'attaque, sa cible, l'immigration.
Comment voulez-vous que le travailleur français, qui habite à la Goutte d'Or, où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Il devient fou, c'est comme ça, et il faut le comprendre. Et si vous y étiez, vous auriez la même réaction. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela.
Un discours musclé, un style qu'on avait plutôt l'habitude de trouver du côté du Front National, Jean-Marie Le Pen.
Musique nègre, RBS Weekend.
Sur le boulevard de la vie, je suis dans l'angle mort. Un nègre qui les défie est un nègre mort. Depuis le bruit et l'odeur, je sens que je dérange la France. Je fais un tour chez Guerlain, je mets du parfum de violence. Quelle arrogance, quelle insolence. Comme Sarkozy à Dakar, je choque l'assistance. Je me sens pas plus européen que la livre sterling.
Ce discours de Chirac, qui nous rappelle que même avant la droite était bien de droite, nous montre à quel point les discours xénophobes sont puissants. Si on l'analyse, on remarque qu'il y a de nombreuses références au quotidien. Or, selon Noiriel, c'est cette irrationalité profonde et cette narration facile qui permet à de nombreux discours xénophobes de percer. Là, ce que Chirac décrit comme l'appartement, c'est quelque chose qui nous apparaît tout de suite. Et même si ces phrases sont affreuses, je trouve qu'il est très significatif qu'il parle de bruit et d'odeur. La réalité de l'immigration est avant tout une réalité sensible pour le pays d'accueil. Mais ces discours xénophobes chargent ces discours sensibles d'un rapport affectif et politique avec cet autre. Et cela se joue avec en plus un développement administratif qui est à étudier et que Gérard Noiriel étudie magnifiquement dans La Carte et le Code. La création de l'immigré est avant tout une création administrative. C'est l'État français, en se développant autour pour savoir qui peut voter, qui ne peut pas voter, qui est sujet de droit, qui n'est pas sujet de tel droit, qui crée une réalité de l'immigré. Et les notables qui ont connaissance de ces différences et qui ont des ambitions politiques peuvent alors remplir ces catégories juridiques aussi d'une signification affective et politique. et surtout durant les moments où il y a des crises économiques qui secouent le pays, qui secouent les populations. Mais en tout cas, ce développement juridique est à prendre en compte dans sa temporalité même et se permet de comprendre quelle crise notre société traverse actuellement. Il faut se rendre compte que les nombreux régimes d'exception étaient discutés avec les différents pays qui envoyaient leurs immigrés. Nous avions des conventions avec l'Algérie, avec l'Italie, avec la Pologne, qui faisaient que chaque immigré avait un statut différent, qui pouvait en plus évoluer selon la place des immigrés dans la société. La tradition libérale que nous connaissons actuellement, où la plupart des immigrés ont quand même plus de droits qu'avant, et quasiment, à part quelques différences, les mêmes droits que les Français, en tout cas les mêmes droits fondamentaux, est une situation extrêmement récente qui date de 1978 et de 1983 avec la destruction de nombreuses barrières liées à l'immigration et surtout liées en fait à l'instauration de l'Europe dans le premier cas, puisque Valéry Giscard d'Estaing est obligé au moment d'un rapport de force avec l'Allemagne de faire passer cette législation. Mais dans le cas de 1983, au moment de la marche pour l'égalité, une grande marche politique des immigrés maghrébins qui se sentent exclus, qui se sentent en danger dans la société française. Il y a alors un rapport de force lié aussi à un air du temps qui pousse le pouvoir à prendre des décisions fortes sur ce sujet. C'est la réalité de l'immigré comme un frère. Et quelque chose de très récent, c'est un discours qui est même très récent au sein de la gauche, puisque même le Parti communiste, jusque dans les années 80, pouvait avoir un discours très discriminatoire envers les immigrés, qui n'aurait rien à envier à celui du Front National actuel, puisque l'immigré était vu comme un adversaire de l'ouvrier français. On voit alors que, selon moi, l'immigré est un fait économique et sociologique, l'arrivée d'un acteur qui n'a plus rien au sens matériel et qui n'a plus rien au sens symbolique et qui est obligé de s'adapter à une situation totalement nouvelle sans être totalement démuni, au sein d'une société qui, selon les difficultés économiques ou politiques qu'elle traverse, peut être plus ou moins accueillante. L'immigration gagne du sens selon des réalités rhétoriques, affectives et selon le rapport de force politique et sociologique au sein de la société d'accueil. Il y a des difficultés objectives qui attaquent l'immigré. Mais le problème de l'immigration provient surtout de la société d'accueil, de ses rigidités et de la politique qu'elle mène à son égard. Je pense aussi qu'il y aurait des choses à dire, et je pense que ce sera la prochaine fois que je parlerai de ça, sur la réalité juridique de l'immigration, qui est autant de l'ordre de la loi que de l'univers juridique, parce qu'au moment où se développe cette administration d'État, cette description de l'autre juridiquement, se crée tout un univers policier dont le contrôle au faciès actuellement n'est qu'une des tristes conséquences. De plus, elle interroge la norme qui est au-dessus des normes, celle des droits de l'homme. Parce que sachez qu'actuellement, selon la déclaration de 1948, nous avons l'homme a un droit inaliénable d'émigrer. Il a le droit de quitter un pays qui le met en danger. Il a le droit de quitter son pays et de voyager. Or, et je ne sais pas si je vais voir si c'est dû à des négociations internes à ce moment, ou parce que c'est de la mentalité pour essayer de préserver la souveraineté de nombreux pays, il n'a pas le droit fondamental d'immigrer. Il y a alors une très belle image qui peut faire penser à la situation actuelle juridique de ces immigrés. Ce sont des cigognes qui ont le droit de lever le pied au-dessus de la frontière, mais qui n'ont pas le droit de le reposer. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée, et j'espère avoir donné un peu de sens à tout cela.